Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, la quatrième saison des podcasts sur Sens avec aujourd'hui Aloïs.
Bonjour.
Et Shadow.
Bonjour.
Shadow, ça va la pêche, la patate.
Parfait.
Tu viens de Lyon, ça va, c'est pas trop long à chaque fois de venir.
Bah, quelques heures de route, mais tout va bien. C'est un plaisir d'être ici.
Bon, c'est cool. Alors Aloïs, t'es venu de Nantes.
Oui.
Hein, avec un petit sujet de podcast qui nous saisit un petit peu avec Shadow, parce que c'est un thème sur...
Kranisten. Ça fait un an que je l'ai proposé.
Ouais, ça fait un an que tu le proposes. Et un an qu'on te dit, ouais, je sais pas, il y a peut-être pas tant de choses à dire que ça. Là, aujourd'hui, t'as décidé de le faire, alors bah, c'est parti.
C'est plutôt toi qui as accepté.
Ouais. J'ai quand même envie de dire que t'as bien insisté.
C'est possible.
Alors, donc Kranisten. Pourquoi Kranisten?
Bah, parce que c'est mon personnage préféré en dehors des runes.
D'accord, ouais. On t'a découvert comme ça, t'avais ce petit pseudo.
Oui, je vous l'avais piqué en m'inscrivant sur Play.
Ouais. Si tu vois ce qui c'est, ce fou qui se fait appeler Kranisten. Alors ouais. Pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage? Pourquoi est-ce que tu le trouves digne d'un podcast?
Bah, parce que pour moi, c'est l'incarnation même du combat des bugs.
Oui. Sachant que pour resituer pour nos éditeurs, Kranisten c'est quand même un quadrilla.
Le leader
de vie.
Théoriquement, le premier ennemi des bugs.
Oui.
L'adversaire. D'ailleurs, s'il s'appelle Kranisten, c'était vraiment parce que au tout début, parce que ça remonte à très très loin, et qu'au tout début, il me fallait un nom de méchant qui claque, genre, tu vois, il fallait qu'il y ait Kran dedans, Isten, je sais pas, ça faisait méchant, quoi.
C'était pas une référence à Skeletor ou un truc
comme ça? Ah, si, c'est un truc comme ça, ouais. Sûr, c'était pas une référence consciente si tu veux, mais à mon avis c'était, il y avait ce petit côté crâne et tout machin truc. Donc à l'époque c'était le méchant pour être méchant quoi. Il avait pas non plus toute cette histoire développée sur laquelle tu vas revenir j'imagine.
L'histoire, je sais pas si je suis le mieux placé pour en parler.
Alors qu'est-ce qui t'a plu déjà pour dans ce personnage? On viendra sur son histoire.
Le fait qu'il joue dans le camp adverse pour, enfin. Qui se fasse passer pour un méchant en fait, pour aider les bugs.
Pour aider les bugs.
C'est
le sacrifice de Kranisten.
L'abnégation totale, enfin l'abnégation dont il a fait part, je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est une incarnation du sacrifice.
D'accord. Ok.
Il représente une humanité qui est magnifique, mais il est pas humain au sens physique du terme. Il est plus humain dans le sens, j'allais dire, ouais, bah, cartésien avec par la pensée, je reconnais mon semblable.
D'accord. C'est,
il pense comme un humain. Il demande qu'à être humain.
Ce qui est assez paradoxal, ouais, parce que c'est ça. C'est que lui, il se considère pas comme un être humain.
Il se considère pas, mais c'est le paroxysme de l'humanité pour moi.
D'accord.
Il se sacrifie, il pense à l'autre avant de penser à lui, finalement.
D'accord, ok.
Il participe à la rune de vie, parce que c'est un quadrilla de vie.
Ouais.
Il la défend, c'est vraiment son idéal, son absolu. C'est, pour lui, il n'y a que ça. Il est prêt à tout donner, y compris tout ce qu'il aime, pour sauver la vie.
D'accord, ça c'est intéressant parce que c'est une vision aussi du quadrilla potentiel que les joueurs pourront éventuellement devenir.
Voilà.
C'est-à-dire que tout l'enjeu des quadrillas à la table de sens, c'est est-ce que, sachant que j'ai un quadrilla à côté de moi qui est mon ami, je vais avoir le courage d'aller éteindre les ordinateurs, sachant que la vie de mon ami quadrilla en dépend. Et en ce sens-là, Kranisten, lui, il a fait son choix.
Oui.
Il s'est dit, bon bah voilà, moi je suis inhumain. Je suis un monstre et donc je dois permettre aux humains de s'épanouir tout en sacrifiant ma propre vie. Et c'est ça, c'est ce choix-là qui te plaît en fait.
Oui.
D'accord.
C'est c'est personnel, mais dans la plupart des jeux, j'ai souvent un rôle de soutien parce que faire des dégâts, ça m'intéresse pas. Je suis plutôt là pour aider les gens. J'ai une certaine tendance à être altruiste.
D'accord.
Même si j'ai des méthodes pas forcément très catholique en général.
Judéo-chrétienne.
Voilà. Ça m'a vraiment plu dans le personnage, oui.
D'accord, ok.
Et puis, pour continuer sur mon point dans le sacrifice, c'est un des trois premiers personnages qui incarne la tragédie dans Sens pour moi.
D'accord.
Avec Finn Longfinger, Classis et Akina aussi, fondamentalement, parce que chacun se donne à fond dans leur idéal, mais ils perdent tous tout à un moment.
Et Graveur, non, quand même pas.
Graveur aussi,
ouais.
Mais Graveur, il est un peu plus loin dans mes notes.
D'accord, ok. Shadow, toi, tu disais qu'à ta table, les gens n'ont pas du tout de relation, finalement, avec Kranisten. C'est un méchant distant.
Mais effectivement, on en entend parler à partir du moment où il rencontre Graveur, je crois, à la fin de, enfin la mort de Graveur.
C'est Météor qu'il évoque.
Voilà, ils arrivent à mettre un nom sur le leader des Kadria. Effectivement, ils en font leur adversaire principal. Mais on va dire le qui il est. En soi, a peu d'importance pour les joueurs. Voilà, c'est leur objectif.
C'est juste un gars qu'on doit blaster.
Exactement. Et jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, les joueurs ne savent quasiment rien de lui. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec un de mes joueurs. C'est une fois qu'il est mort qu'on se dit « Ah, j'aurais bien aimé le connaître, j'aurais bien aimé comprendre pourquoi il a fait tout ça.
»
Et voilà, c'est la relation entre Kranisten et les joueurs se fait après sa mort.
Oui, c'est intéressant aussi.
Ça, c'est intéressant aussi, ouais. C'est-à-dire que c'est en fait un personnage que les joueurs ne peuvent que fantasmer, en fait.
Exactement.
Ils n'ont aucun support pour savoir exactement qui il est.
Dans la base, en tout cas.
Dans la base, ouais. Donc, en fait, on imagine un petit peu que c'est l'allié caché idéal de la résistance. Donc ça c'est vrai que ça en fait un personnage intéressant.
Et d'ailleurs, je pose Shadow. La question pour les maîtres de jeu. Est-ce qu'il faut créer un background à Kranisten avant sa mort?
Ouais, c'est une bonne question.
Ça dépend si tu comptes le faire intervenir plus que ce qui est écrit dans la base.
Alors justement, Aloïs, je voulais te poser la question. Est-ce que toi, dans tes parties, du coup, ta fascination pour ce personnage a fait qu'il s'est plus incarné au cours du jeu?
Non. Parce que j'ai rigoureusement suivi la base, en fait, sur Renaissance.
Y compris, justement, cet aspect de personnage fantasmé un peu, du coup. Tu t'es peut-être dit aussi que si tu l'introduisais trop dans les parties, il allait éclipser
le reste. En fait, on oublierait presque de lutter contre Miphos s'il était trop souvent là.
D'accord.
Son but, c'est d'être là pour rappeler que l'ennemi, c'est pas juste... pas juste le Micron, mais qu'il y a aussi les Kadria qui ont l'air d'avoir un statut particulier dans l'armée. Parce que quand on voit les hommes de l'Omicron, ils se font tuer n'importe comment, plus ou moins.
Ouais. Effectivement.
Et quand on voit les Kadria, notamment Kranisten, qui est quand même celui qui a tué Finn Longfinger, tué entre guillemets.
Mis hors d'état de nuire,
pendant deux siècles, je crois, ou quelque chose comme ça. Il en impose de base, tout comme la plupart des Kadria, parce que la foudre bleue, c'est quand même assez joli à voir.
C'est vrai que c'est un peu l'adversaire mythique finalement. En tout cas, dans l'univers, il est présenté comme celui qui fait basculer le combat de la résistance contre l'Empire. Parce que ce qui se passe à la Nouvelle-York le 3 janvier 1001, qui est la fameuse bataille qui voit la résistance basculer définitivement dans l'ombre et périr, c'est que en plus des troupes de l'Omicron se trouvent là les premiers Kadria. Donc c'est bien ça qui va faire peur au général Finn Longfinger et qui va faire en sorte que le combat va tourner en faveur de l'Empire.
Faut quand même pas oublier qu'à la base, dans son univers, dans l'ombre monde, Kranisten ainsi que tous les Kadria étaient chassés par la résistance, par l'ombre résistance,
tout à fait.
Du coup,
ça, on peut peut-être en parler justement de la naissance des Kadria.
Oui.
Rapidement, parce qu'on en a déjà fait tout un podcast
qui était très long et
qui était très long. Tu avais des choses à redire sur ce podcast?
Non, pas spécialement.
Parce que je sais que j'ai fait une erreur, j'ai confondu Meta Anima et Metatron à un moment donné. Mais effectivement, faut bien que les auditeurs sachent que pour moi, tout ça, c'est très loin. Sans Renaissance, pour moi, avec mes joueurs, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on fait les playtests de Néant. J'espère qu'il sortira cette année, au moins en fin de cette année. Moi, tout ça, c'est très très loin. Donc, c'est vrai que parfois, là, tu vois, par exemple, avant ce podcast, vous en êtes témoin, j'ai dû relire le livre pour me dire, ah oui, c'est vrai, il y avait tout ça derrière ce personnage, quoi.
Kranisten est un Kadria.
Ah oui, c'est vrai, c'était un Kadria.
Comment je croyais que c'était une flaque d'eau.
Ah non, ça, c'est d'autres personnages. Kranisten, donc, naît à New York.
À l'ombre New York.
À l'ombre New York, exactement, le 14 décembre 996, exactement au même moment que les bugs. Donc on peut imaginer qu'au moment où les bugs sont nés d'un côté à New York, de l'autre côté en miroir, dans l'ombre monde, d'ombres bugs, qu'on appelle des Kadria, sont nés de leur côté. Et ces Kadria naissent dans un monde qui est imparfait, c'est-à-dire l'ombre monde. le monde créé par les machines de Miphos Kadria, un monde imparfait, qui va finalement laisser aux ombres bugs, donc aux Kadria, la possibilité de vivre des choses extraordinaires et de façon presque inconsciente. Et donc, du coup, lorsque les Kadria naissent, ils naissent avec des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Nous autres, êtres humains, quand on naît, on a des contraintes. Hein. On a besoin de se nourrir, on a besoin de crier pour avoir des câlins, etc. Hein.
Il y en a un qui le sait très bien.
Il y en a un qui le sait très bien en ce moment. Et donc, notre ami Shadow, hein, qui vient d'être papa, on le félicite d'ailleurs.
Merci.
Bravo.
Et donc, du coup, nous, on a la contrainte physique qui s'impose. Les Kadria ne naissent pas avec cette contrainte physique. Ils naissent sans contrainte. Et donc, ils vont devoir trouver d'autres formes de contraintes. Beaucoup d'entre eux meurent, périssent, tués manifestement par l'ombre résistance, et c'est bien normal. On imagine des boules de foudre qui sortent comment on appelle ça ? Pas des materneries.
Maternité.
On imagine des boules de foudre qui commencent à sortir des maternités, qui dévastent tout sur leur passage parce que sans contrainte, elles ne savent pas vraiment. Imaginez un caprice d'enfant. Mais l'enfant est capable, comme Jack-Jack dans Les Indestructibles, de foutre le feu à la cuisine, de dévaster, de détruire un être humain. Elle est très bien, cette référence. Qu'est-ce que tu as contre cette référence ?
Rien du tout. Hein ?
Pixar Superstar. Et donc voilà, imaginez ça, quoi. Et donc c'est ça, les Kadria. Ce sont des enfants sans contrainte qui ont des capacités qui dépassent illimitées, qui dépassent l'entendement. Donc Kranisten naît comme tous ces Kadria de cette manière.
Kranisten, c'est le premier à s'autodéfinir, en fait. C'est le premier à choisir ses limites de la façon si chère à Rousseau, en fait.
Exactement.
C'est lui qui détermine où est sa liberté et où elle n'est pas.
Exactement. Exactement. Ouais. T'as bien vu la référence.
Oui, c'est-à-dire
qu'effectivement.
C'est
en
pas
fait,
le seul endroit où elle est.
Non, c'est pas le seul endroit où elle est. Effectivement, dans Sens Mort, on en trouve une autre trace. C'est ça. Moi, à la base, en fait, je suis parti de l'expérience de pensée qui est proposée dans Évangélion. Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage.
J'ai pas vu Évangélion.
Où, Shinji s'imagine dans un univers totalement dépourvu de contraintes. Vous vous souvenez pas de cette scène? Et donc, il est seul, il flotte dans le vide et il dit, voilà, si je n'ai aucune contrainte, alors je flotte dans un vide sidéral, presque, je sais pas, et je ne peux donc rien faire. Et donc, la liberté totale est une absence de liberté. De la même manière que, si on voyait toute la lumière de l'univers, on serait aveugle. Parce que, c'est le fait qu'on soit, qu'on ait des capacités limitées qui nous permettent de pouvoir agir sur le monde. Enfin, en gros, quoi. Et ça, effectivement, cette idée de l'autodétermination, c'est une idée rousseauiste. À savoir que être libre, ce n'est pas être sans contrainte. Être libre, c'est respecter
où sont ses limites.
Voilà, c'est respecter la loi que l'on s'est prescrite, d'ailleurs, soi-même. D'accord, c'est ça la liberté pour Rousseau.
Et c'est aussi pour ça que j'aime Kranisten, c'est que c'est la réflexion sur le début de la réflexion sur la liberté dans le sens, à mon avis.
D'accord.
Ça commence avec Akina.
Tu vois Shadow là, maintenant qu'il présente le truc comme ça,
ouais,
on comprend beaucoup mieux pourquoi il voulait faire ce podcast. Et effectivement, t'as bien raison, mon pote.
Il y a Akina aussi qui la lance. Parce que
mais Akina, n'oublie pas, fait partie du kit d'initiation.
C'est un stade particulier. Voilà, c'est pour ça que Kranisten, pour moi, c'est vraiment le début.
D'accord.
Mais tant que les bugs ne connaissent pas l'histoire des Kadria, ils n'en savent rien de tout ça.
D'accord.
Pour eux, les Kadria, ils sont nés comme ça directement. Et le seul exemple qu'ils auront de Kadria qui pourra leur en parler, c'est quelqu'un qui a un ancien bug, un ancien humain.
Tout à fait.
Les bugs ne savent même pas si en soi les Kadria sont nés.
Oui, voilà.
Pour eux, l'histoire leur dit qu'il y a un Kadria qui est arrivé à la Nouvelle-York, qui a combattu Phil and Finger. Ils ne savent pas s'ils sont nés, s'ils ont été créés,
Ce sont des machines vivantes. Voilà. Il y a une version de Sens Renaissance. Dans laquelle donc c'est pas l'édition qui a été accessible au public, c'est pas les petits formats. Il y a des versions de Sens Renaissance qui ont tourné dans laquelle on peut lire que les Kadria sont purement et simplement des machines.
D'accord.
Donc à l'époque, Kranisten, la première version de Sens, c'était Kranisten, c'était une machine.
C'était le premier des la première des machines ou...
C'était une. Alors c'était pas la première des machines de Miphos, si tu veux. D'accord. C'est pas ça. Ce sont des êtres qui ont été créés mécaniquement par un ordinateur pour répondre à la naissance, au déséquilibre de la naissance des bugs. Ouais. Là, on se retrouve dans une version, d'ailleurs, ça m'a bien fait rigoler quand j'ai vu Matrix 3. Parce que, donc, Sens, il faut savoir que c'est antérieur à Matrix 3. J'ai bien rigolé parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est l'idée que j'avais eue. Alors après, bon, bien sûr, je m'en suis complètement débarrassé de cette idée. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais à la base, voilà, c'était ça. Donc, tu vois un petit peu. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a cette quête chez Kranisten de l'humanité. Qui t'est cher.
Oui, d'ailleurs, c'est le premier qui prend une apparence humaine, qui,
exactement.
Qui se met à respecter toutes les contraintes humaines.
C'est lui qui choisit les limites. Il veut ressembler à ceux qui l'ont chassé.
Il sait pertinemment qu'il n'est pas humain et pourtant il se plie à toutes les contraintes.
Est-ce qu'il n'est pas humain ? Enfin, il n'est pas physiquement
humain.
Mais
lui, pour lui, il est convaincu de ne pas l'être.
Mais
après,
En fait,
il y a une ambiguïté. Enfin, ouais. Je trouve qu'il y a une ambiguïté quant à son humanité.
Il est persuadé de ne pas l'être et pourtant il se plie à toutes ses contraintes.
Attention à ton micro, Shadow.
Ouais. C'est qu'au fond de lui, il espère.
Il dit lui-même qu'il a obéi à Miphos justement parce que Miphos promettait de le rendre réel.
Exactement. Mais c'est ça.
Il n'aspire qu'à l'humanité.
C'est ça qui est marrant, c'est que. Ouais, il aspire à l'humanité, mais carrément. Son idéal, c'est l'humain. Ça, il n'y a pas de souci. Et lui, il se juge inhumain. Mais au final.
C'est la quête qui est plus importante.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au final, en se jugeant inhumain, il exerce sur lui-même une telle pression morale qu'il en devient surhumain.
C'est ça. C'est un point qui était un peu plus loin, mais.
Ouais. Ça, tu voulais l'aborder ?
Oui. Parce
et
que...
ça te fait penser à quel personnage de la littérature ? Moi, il y en a un qui me vient tout de suite en tête. C'est Louis. Dans Entretien avec un vampire.
Oui, c'est un autre personnage que j'aime beaucoup. Oui,
parce que c'est un personnage qui, en fait, est confronté exactement aux mêmes problématiques. Il change à tel point qu'il cesse d'être un être humain, mais perdant son statut d'être humain, il veut.
Le garder.
Il veut le garder, et donc il tient d'autant plus à son humanité, et il exerce sur lui-même, encore une fois, des contraintes morales si excessives qu'il devient même plus humain. Que l'être humain.
C'est une problématique que problématique pas vraiment, mais que je retrouve aussi quand j'étudie les samouraïs, etc. Que pour moi, servir l'humanité, c'est pas lui être inférieur en fait. C'est justement la dépasser, c'est transcender.
Alors ça, j'aimerais bien que tu nous parles de ça parce que c'est un truc quand même qui est important pour toi, Loïs. Cette vision du samouraï, moi tu m'as vraiment appris des choses là-dessus. Si tu pouvais apprendre ces mêmes choses à nos auditeurs, ce serait super. Alors quelle est la vision du samouraï justement ?
La mienne, enfin.
Alors même, ta vision, c'est celle que tu m'as racontée le jour et qui m'a fait tant rêver.
C'est que servir quelqu'un, c'est accepter son statut, c'est accepter de se faire rabaisser, c'est accepter sa condition d'être
un serviteur.
D'être un serviteur, voilà, parce que samouraï veut dire serviteur.
D'accord.
C'est être humble pour quelqu'un d'autre. C'est un altruisme qui a été parfois forcé. Ils ont rarement choisi d'être tels qu'ils sont. Enfin, c'est une caste guerrière, c'est de père en fils, etc. D'accord. Voilà. La condition de samouraï est absolument pas enviable. Mais, et d'ailleurs, ceux qui sont en dessous des samouraïs sont encore moins enviables. Mais,
d'accord.
Voilà. Mais le samouraï, justement, en servant son maître, accède à une autre forme d'humanité. Enfin,
une forme de déresponsabilisation. Parce que justement, n'étant plus lui-même qu'un outil au service de quelqu'un, il se déresponsabilise.
Mais en choisissant et en acceptant d'être un outil, il va. En acceptant sa condition, pour moi, il s'élève. En fait.
D'accord, ok.
Et on voit souvent dans certains livres une citation qui est « Si un maître demande à un de ses samouraïs de massacrer un village entier, est-ce que le bon samouraï c'est celui qui obéit à son maître ou c'est celui qui sauve le village ?» C'est une question qui est très intéressante, parce que c'est « Est-ce que la morale c'est de sauver les innocents ?» Ou est-ce que c'est d'obéir ?
Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le bon samouraï... Alors là, il y a deux définitions du mot « bon » qui sont différentes. C'est le « bon » au sens d'une bonne chaise. Une bonne chaise, c'est celle qui effectue bien sa fonction de nous asseoir. Là, le bon samouraï massacre le village, en ce sens. Et puis il y a le « bon » au sens de la bonté, on va dire judéo-chrétienne presque. C'est-à-dire, est-ce qu'il est préférable...
La bonté morale,
Ouais, la bonté morale.
Et dans le livre, dans un livre qui s'appelle « Le Hagakure », qui est... caché parmi les feuilles si on traduit, où c'est un ancien samouraï qui est devenu moine qui explique le Bushido, parce que lui, il a perdu son maître, mais il a refusé de se suicider après.
D'accord.
C'est pour ça qu'il est devenu moine, si je me rappelle bien. Il explique que la condition de samouraï ne se définit que par une chose, c'est par l'abnégation totale.
D'accord.
C'est n'être que pour l'autre, que pour le maître.
D'accord. Alors, et cette idée de la mort aussi, parce que on va faire le parallèle ensuite avec Kranisten.
Oui.
Et l'idée de la mort pour le samouraï, ça c'est très important parce que Kranisten c'est quelqu'un qui prétend défendre la vie justement.
Oui, oui.
Donc, alors, comment le samouraï conçoit la mort ?
Enfin, je peux pas. Sa vie, enfin, telle qu'on le voit dans la plupart des œuvres, la vie d'un samouraï n'a pas d'importance aux yeux de son maître, quasiment.
D'accord. C'est un outil, encore une fois.
Oui, c'est un outil totalement.
On peut casser
assumé.
Un outil, tant pis, on le remplace. Quoi.
Voilà. Bon, ça coûte cher de le remplacer. Enfin, cher, voilà, parce que c'est quand même du temps pour apprendre la voie du sabre. Le samouraï, c'est toute une étiquette. C'est les matins, il se lève dès l'aube pour se raser la tête, pour s'entretenir, etc.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas déshonorer son maître en étant imparfait.
D'accord, c'est génial. C'est un truc de fou. Quoi. Vraiment, c'est.
C'est
à la fois totalement méprisable parce qu'il y a une totale perte de liberté. Ça voilà. Serait pas du tout rousseauiste.
Ah oui.
Parce que justement, le samouraï accepte sciemment de se défaire de sa liberté.
Il n'a pas trop le choix non plus, en fait.
Mais Or, dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, il est bien dit que ça, aucun homme ne peut le faire.
Sa liberté, il la perd devant un homme. Parce que la classe des samouraïs n'était pas la plus basse. En dessous, il y avait tous les marchands, il y avait les états, enfin, il y avait beaucoup de choses. Donc, sur les paysans, ils avaient quasiment le droit de vie et de mort, etc. Mais ils étaient toujours obligés d'obéir à quelqu'un qui leur était supérieur.
On m'a aussi expliqué que le samouraï, c'était celui finalement qui acceptait sa propre mort.
Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au Hagakure.
D'accord, ok.
L'abnégation, c'est s'il n'est pas prêt à mourir à tout moment pour son maître. Il n'est pas digne d'être un samouraï.
D'accord, ok. Alors, justement, donc là, on fait le rapport. Alors, ce petit intermède nous permet maintenant de revenir à Kranisten. Alors, en quoi, pour toi, Kranisten, c'est un samouraï ?
Bah, parce qu'il accepte. Enfin, il est prêt à tout pour Solipsis. Enfin, pour Solipsis, c'est pour la rune de vie, en fait.
Moi, je ne sais pas s'il vénère tant que ça, Solipsis. Je me demande. Alors, ok, d'accord, il a cette vénération pour la rune de vie. Moi, je pense qu'en fait, c'est plutôt pour les humains.
Oui,
pour les terriens.
Ouais. C'est. Parce que pour lui, l'humanité, c'est l'incarnation de la rune de vie. Plutôt D'accord. que participant à. Enfin, il doit savoir que ça participe à toutes les runes. Mais la rune de vie, à mon avis, a tendance à être la forte chez les humains. Beaucoup plus forte que chez n'importe quelle autre espèce animale.
Hein. Ça, c'est intéressant. C'est vachement engagé comme propos. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, notamment des écologistes, qui vont aller dire qu'au contraire, les humains sont nuisibles à la vie finalement. Alors, c'est paradoxal.
Ça dépend toujours des conceptions de la vie avec le grand V, en fait. C'est la force de vie, de volonté des humains est quand même assez impressionnante. Je connais pas. Enfin, suffit de voir que le nombre qu'on est aujourd'hui, c'est d'une part à cause de la reproduction, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas tant de morts que ça. Il n'y a pas assez de morts pour dépasser les vies, pour que ça décroisse, en fait. Les gens ne se suicident pas juste comme ça.
Vous connaissez Church of Euthanasy ?
Non.
Vous avez jamais entendu parler de ça ? C'est une espèce de fausse église bidon qui prône l'homosexualité, la peine de mort, l'euthanasie.
C'est des gros trolls.
C'est des gros trolls, ouais. Ce qu'ils leur proposent, c'est de dire qu'il y a trop d'humains sur Terre, donc il faut encourager toutes ces pratiques. Pour éviter soit que la reproduction ait lieu, soit tu vois, ce genre de conneries, quoi. Ça me fait penser à ça, voilà. Petit intermède culturel.
Voilà, les humains, enfin, déjà les êtres vivants sont les seuls à avoir la rune de vie, donc déjà ça limite quand même un certain nombre de choses. La rune de vie des végétaux, elle est assez limitée, si je me rappelle bien.
Ça dépend lesquels.
Il y a d'autres runes qu'ils n'ont pas, en tout cas. Ils n'ont pas la créativité.
Ouais. Je pense que c'est vraiment un serviteur des humains, Kranisten. Et même des terriens.
Peut-être.
Il y a un moment donné dans le livre où il dit qu'il espère, je crois que c'est dans sa feuille de perso, qu'il espère et qu'il attend des êtres humains qu'ils s'éveillent, qu'ils se réveillent.
Ça, ça me fait penser à Bouddha.
Je crois qu'il est.
Ça te fait penser à Bouddha ?
Oui.
Et d'ailleurs, comment l'appelle d'ailleurs Kranisten ?
L'éveillé.
Il l'appelle l'éveillé.
Bah oui, parce que Bouddha, c'est l'éveillé. Ah oui. En plus.
Alors justement, pourquoi est-ce que...
Il a les yeux fermés d'ailleurs.
Où est-ce que tu veux en venir, Louis ?
C'est que finalement, peut-être que ouvrir les yeux sur la réalité, c'est s'en couper et accéder à autre chose.
D'accord. Parce que moi, pour moi, en fait, si c'est l'éveillé, c'est parce que justement, il sort... Kranisten réussit à se sortir de cette espèce de d'univers sans contrainte, de ce vide sidéral, en s'autodéterminant, en se contraignant en fait.
Oui, et puis c'est lui qui rallie tous les quadrillas, qui ramène tous les quadrillas, on va dire, à la raison entre guillemets, puisque ils étaient sans limite, libres, ils provoquaient peut-être des catastrophes.
Ouais.
Et que
attention à ton micro.
et voilà, donc il est allé chercher tous les quadrillas, leur a expliqué un petit peu la situation, et puis moi j'avais une question, excusez-moi, je change un petit peu de
sujet. Prie.
Mais on dit oui, Kranistein veut absolument tout faire pour la rune de vie. Après, je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas un peu aussi rancunier parce qu'il a été trahi par Miphos, qui est l'incarnation d'une autre rune, et par ses actes va créer, enfin, va faire sa propre vengeance en quelque sorte, enfin.
Est-ce que c'est un vengeur, Kranistein ?
Voilà, c'est la question. Est-ce qu'il fait ça seulement pour la rune de vie ? Ou quelque part, est-ce qu'il ne s'est pas senti tellement trahi qu'il cherche à se venger ?
Il me semble avoir lu que Kranistein, en voyant Solipsis, a compris.
Enfin, tout à fait, il a compris.
Qu'il est tombé après... en admiration devant, parce qu'il voyait la vie elle-même.
En fait, c'est pas illogique de la part de Kranistein d'avoir pris Miphos Kadria pour Dieu, en fait. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait, en fait, Kranistein, au tout début de sa vie ?
Bah, il s'est fait chasser par l'ombre résistance.
Il s'est fait chasser par l'ombre résistance.
Sachant que Miphos était omnipotent dans l'ombre monde.
Tout à fait. Et deuxièmement, aussi, c'est aussi un individu de règles. On vient de dire qu'il était surmoral, donc c'est des règles. On vient de dire qu'il s'était autodéterminé, donc c'est des règles. Qu'il s'était infligé à lui-même les contraintes physiques des humains, ce sont des règles. Et Miphos est le représentant de la loi, le représentant de l'ordre. Donc c'est normal qu'au début de son existence, Kranistein soit fasciné par l'ordre incarné par Miphos Kadria, si j'ose dire. Parce que c'est vrai qu'on le dit, on l'a pas dit dans ce podcast, mais les Kadrias ont une vision du monde qui a l'air un petit peu différente aussi dans les livres des humains. Ils voient la rune à travers les gens, ils ressentent la vie, ils ressentent la mort, etc. Ils ont une vision peut-être plus synthétique. Ils ont peut-être même la vision des règles du jeu, si j'ose dire quoi. Ils voient peut-être
du monde.
Voilà, ils voient peut-être la trame du monde.
Bon, après, qui n'aurait pas pris Miphos pour Dieu en étant un nombre humain. Enfin voilà, on rencontre quelqu'un qui est tout puissant, qui a la possibilité de nous faire passer dans un monde, un autre monde qui est plus complexe. Je veux dire, c'est comme si nous, aujourd'hui, quelqu'un venait nous chercher, nous emmenait au paradis, en quelque sorte.
Symboliquement, plus, les quadrillas de Cosmo, les serviteurs de Miphos, sont décrits comme des anges.
Exactement. Il avait tout pour passer sous la coupe de Miphos. Hein.
C'est assez intéressant qu'il soit décrit comme des anges, tout en ayant les noms Hélium et Hydrogène, en fait. Parce que c'est la réalité. L'Hélium et l'Hydrogène composent la réalité. Et les anges, qui sont censés être les messagers des dieux, est-ce que la vérité ne nous passerait pas juste par la matière ?
Par la matière. Mais en tout cas, moi, ça me semble pas surprenant de voir Kranistein au début aller vers Miphos. En fait, à force de détermination, il devient surhumain, on l'a dit tout à l'heure, surmoral. Et là, je pense qu'il fait une rencontre à la Nouvelle-York, après avoir vaincu Finumfinger, je pense qu'il fait la rencontre de Soren, et il se dit, attends, qu'est-ce que je vénère C'est entre l'ordre que je me suis imposé et la vie que cette femme représente,
je pense qu'il y a un bouleversement dans ses convictions à ce moment-là.
Mais
qu'il n'a pas changé de camp n'importe comment, enfin qu'il n'a pas changé de camp comme ça non plus. Certes, il a été bouleversé par la rencontre, mais ça a dû être un vrai choix pour lui par la suite de savoir de quel côté il allait se mettre.
Moi, je me demande aussi jusqu'où le fait qu'il ait vaincu Finumfinger ne lui a pas
qu'il ait vaincu la mort.
Ouais, alors ça c'est symbolique, mais en dehors de ça, qu'il ait réussi à vaincre le personnage de Finumfinger. Ne lui a pas fait dire, tiens, c'est bizarre, est-ce que j'aurais vaincu l'ombre Finumfinger si facilement ? Vous voyez où je veux en venir ?
Non.
C'est-à-dire qu'il est au courant, quand Kranistein s'éveille dans l'ombre Nouvelle-York, je pense qu'il est au courant qu'il y a l'ombre Finumfinger et que l'ombre Finumfinger traque les quadrillas pour les détruire, ça me semble logique.
Oui.
Et que dans l'ombre, Finumfinger peut-être y parvient. Alors que là, dans la réalité, il réussit à le vaincre. Moi, ce que je me demande, c'est si Kranistein, à un moment donné, ne s'est pas dit, mais en fait, là, je viens de vaincre une personne réelle. À ce moment-là, il prend conscience qu'il a terrasser quelqu'un de réel, alors que jusqu'à maintenant, il n'a finalement vaincu que des ombres. Et donc, du coup, est-ce que ça lui crée pas le traumatisme du premier meurtre, finalement, le moment où il passe à l'acte, il se dit, putain, là, je viens de massacrer quelqu'un, vraiment.
Il avait probablement tué d'autres gens dans cette réalité, mais peut-être qu'il la considère encore comme une
ombre. Non, c'est la première fois où on voit les quadrillas à la Nouvelle-York.
Oui, alors, mais pendant la bataille, il a peut-être tué d'autres gens.
Alors, pendant la bataille, il est bien décrit dans le livre qu'ils ne servent que de défenseurs.
Ah oui.
Ils créent des boucliers autour des chars et ils aident les gens de l'Omicron à prendre...
Et il le dit à la fin qu'ils ont fait que défendre les personnages de l'Omicron. Non,
ils ont tué personne. Et c'est lui, par contre, qui va tuer Finonfinger. C'est lui qui va affronter Finonfinger. Moi, je pense que Miphos lui fait croire que ce Finonfinger-là est celui qui les traque.
Oui, c'est possible.
Alors qu'en fait, c'est l'ombre Finonfinger qui les a traqués. Vous voyez la différence, la nuance ? Est-ce qu'à ce moment-là, il ne réalise pas justement le crime qu'il vient de commettre contre un Finonfinger innocent ?
Oui.
Alors que c'est l'ombre Finonfinger qui est coupable de toutes les sévices. Enfin, tu vois, il y a cette idée-là aussi.
C'est,
quoi.
C'est à ce moment-là qu'il doit réfléchir à la différence entre les deux mondes.
Parce que moi, j'ai du mal à croire que... Enfin, je ne trouve pas ça cohérent que le personnage de Cranistan se retrouve face à Solipsis et se dise « Ah oui, mon Dieu, truc oui. ». Je pense qu'il s'est passé autre chose.
Enfin, il y a un choc, à mon avis. Ouais. Et c'est peut-être ce moment-là.
Ouais.
C'est vrai que je n'avais pas pensé... pas trop pensé.
C'est ça fait. Aussi, la tromperie que, dont tu parles, Shadow.
Vu que Finlongfinger n'est pas mort, mais qu'il a quand même eu le choc, en fait, pour Cranistan, c'est vrai que ça se tient, si vraiment c'est la première personne qui tue, parce que il s'est quand même fait pourchasser, il y a ses frères qui sont morts pendant des années à cause de la résistance, et là il tue le chef présumé de l'ombre résistance, qui croyait être à l'origine des morts de son peuple.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est là qu'il se fait tromper, si tu veux, mon avis, Shadow. Et c'est là qu'il prend conscience que Miphos est un menteur. Que c'est un dieu de pacotille qui cherche à les manipuler. À mon avis. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aurais interprété si j'avais. Parce que, attention, voilà, encore une fois, moi, c'est ce Cranistan-là, je ne le connais qu'en tant qu'auteur du livre. Et je ne le connais pas en tant que maître de jeu. Mais je pense qu'en tant que maître de jeu, si le personnage du livre ne m'aurait pas convenu. J'aurais été obligé d'inventer autre chose à côté.
C'est vrai qu'il est
un peu
creux comme ça, au final,
je
crois.
Mais par contre, tu résumes bien le fait que, ça je ne l'avais pas vu, qu'il présente déjà à l'esprit du joueur qui l'affronte le futur choix que son ami Cadria devra faire. Parce que, est-ce que tu vas te sacrifier pour aider les bugs à progresser jusqu'à la destruction des ordinateurs ? Ou est-ce que, comme graveur, alors graveur, il est un peu en... ambigu, hein, oui. On lui a consacré un podcast et normalement il est vraiment spécial. Mais où est-ce que comme graveur tu vas au contraire te battre pour que ta réalité existe, sachant que Cranistan est convaincu qu'il n'est pas réel. Donc c'est...
Et d'ailleurs, en parlant de ça, ma table n'a pas compris le choix de Cranistan en soi. Ils se sont dit bon, ok, après tout ce qu'il a fait, il a décidé d'aider la résistance, jusque là pas de souci. Mais de là à aller jusqu'à l'anéantissement. Ma table est restée un petit peu surprise de ce choix, quoi, de se dire mais pourquoi il s'est pas rallié à nous, pourquoi à ce moment-là il nous avait entraînés, pourquoi ils sont pas dit eh ben ok stop on arrête, en fait on est avec vous maintenant, on va tous ensemble
alors moi je
continuer.
Pense que moi
et
je
eux
pense
ils ont du mal à
le sacrifice de Cranistan est total, parce que déjà je pense qu'il se punit lui-même.
Les quadrillas ont commis des abominations dans l'ombre monde petit.
Ils ont commis des abominations dans l'ombre monde, mais ça encore, je pense que c'est pas très grave pour Cranistan, parce que Cranistan prend conscience après que de toute façon, l'ombre monde, c'est qu'un monde virtuel d'où il vient malheureusement, mais en tout cas, je pense que ça, il s'en fout. Non, je pense que les véritables crimes, et là où il prend vraiment conscience du problème, c'est quand il défend les tanks de l'Omicron le 3 janvier 1001 et qu'il voit des gens se faire massacrer.
Par sa faute en partie.
Par sa faute en partie. Moi, je pense que c'est là qu'il a le traumatisme de Cranistan qui fait qu'il sait à ce moment-là qu'il doit mourir pour ces gens qui viennent de massacrer, comme pour rééquilibrer l'équation déséquilibrée.
Il explique ses crimes.
Oui, mais que Cranistan décide de le faire, ok, mais pourquoi tous les quadrillas disparaissent alors ?
Alors, Shadow, il faut savoir qu'il n'y a pas tant de quadrillas que ça.
Non, il n'y en a pas tant que ça, mais il est dit que tous les quadrillas ont disparu.
Ouais, bon, ça... C'est vrai que c'est tu peux très bien.
Alors voilà pourquoi les quadrillas ont décidé. Enfin, moi j'ai suivi donc la base et voilà pour moi les quadrillas se sont tous sacrifiés en même temps que Cranistan. Non. Et quand on lit d'ailleurs le texte de Météor, il est dit que c'est le dernier quadrilla.
Bon, ça je pense que alors donc le premier pourquoi j'ai fait ce choix, c'est un choix esthétique de me dire que c'est bien que les joueurs et Météor, les joueurs qui jouent des quadrillas et Météor soient les derniers quadrillas de leur espèce pour que toute la responsabilité porte sur eux.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de retour. Mais voilà. Après, la compréhension de.
Voilà, c'est pas question. Oui, c'est pardon. Éthique, oui, oui, mais... c'est, oui, pardon. C'est pas un choix esthétique, oui, excuse-moi. C'est un choix de game design. Ça permet aux joueurs de prendre vraiment l'ampleur et la responsabilité de leurs futurs actes. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis, le deuxième point, c'est que s'il y avait des quadrillas qui restaient sur Terre, ça ferait des PNJ à aller voir sur la Terre et qui auraient une expérience de l'Omicron qui serait peut-être trop grande et qui ferait des spoils, en fait, sur la suite. Ils pourraient révéler des choses que les joueurs ne doivent pas savoir s'ils veulent s'en prendre plein la gueule et apprendre les secrets dans l'ordre escompté.
Et justement, là, on parle que de l'aspect MJ. Et moi, en maîtrisant Sens, je comprends. Ce sacrifice, je vois, tu vois l'intérêt, etc.
C'est un rôle littéraire.
Si voilà, tout à fait.
C'est pour éviter aux lecteurs d'en savoir trop à ce moment-là.
Mais mes joueurs, bon, ils ont accepté le sacrifice, etc. Quelque part au fond d'eux, ils ont dit, bon, d'accord, ok, ils se sont sacrifiés. Mais c'était un petit peu trop pour eux. Mmh. Voilà, ils se sont dit...
C'est too much, quoi. Merde, ouais, pour une fois, on pourrait...
Exactement.
Moi, je crois qu'il faut...
Est-ce qu'il y a une raison, enfin, à part l'éthique?
L'Omicron à Berlin et Paris est super fort, hein. Super costaud. Ils se font massacrer. Enfin, ils n'ont aucune chance. Il ne faut pas oublier non plus que les quadrillas de Rebirth, ce n'est pas spécialement des combattants. Moi, je pense qu'au moment où Kranisten débarque devant Finofinger, il est déjà blessé, déjà, pour commencer.
Non,
quand Kranisten... essaye se barre la route à Finumfinger. En gros, quand Kranisten se suicide contre Finumfinger, quand Kranisten arrive, pour moi, il est blessé, en fait. Et il vient de perdre tous ses potes. Tout le monde est mort, quoi.
D'accord. Alors que moi, je ne l'ai pas joué comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas spécialement précisé dans la base, je ne crois pas.
Mmh. Je me trompe peut-être. Pas précisé.
Mais c'est vrai que moi, j'ai fait que les bugs arrivent, tout est déjà prêt pour leur rentrée dans Berlin.
Ouais.
Donc, le combat final, c'est les bugs contre les quadrillas.
En fait, non.
Et ils s'affrontent tous, ouais. Et au final, tous les quadrillas meurent sous les assauts des bugs en se sacrifiant.
Ah oui, d'accord.
Mais voilà, et donc ça crée une sorte de...
Ah ouais, non, moi j'ai pas fait ça comme
ça. De grande disparition des quadrillas sous les yeux des bugs.
Alors, je l'ai peut-être pas bien expliqué. Moi, ma vision du truc, c'est que quand les bugs arrivent, les quadrillas sont aux prises avec l'Omicron. Donc les quelques quadrillas, il y en a pas des masses, hein. Il doit rester Meta Anima, un Explosius qui traîne.
Meta Anima. On n'entend pas parler dans la base.
Dans la base, on n'entend pas parler.
C'est la sœur de Métatron.
Oui, c'est voilà, Métatron ça,
Qui a disparu en jouant avec des petites voitures.
Il y a deux trois quadrillas, donc bon.
Ah oui, c'est étrange parce que justement.
Et donc logiquement, il y a pas tant de quadrillas que ça. Et quand les bugs arrivent, Berlin et Paris viennent de subir l'assaut des quadrillas, mais ils sont quasiment tous morts dans l'assaut.
Ah ouais,
et pour moi, il ne reste plus qu'un Kranisten blessé et qui demande qu'à être achevé, quoi.
Alors après, est-ce que c'est gênant
C'est pour ça qu'il va contre Finlongfinger, justement.
Cette scène-là, il y a, je ne sais pas, 30, 40 quadrillas contre autant de bugs.
D'accord, enfin,
pour moi, c'est vraiment un assaut final. Je voulais que ce soit une scène épique, que ce soit grandiose.
Mais pourquoi pas ?
C'était un combat.
Pourquoi pas ?
Voilà, les bugs étaient à deux doigts de la défaite et puis ils sont remontés, etc. Enfin, c'était vraiment épique. Et puis le dernier assaut des bugs a causé la disparition des quadrillas. On apprend que c'est un sacrifice volontaire pour que les bugs se surpassent, deviennent plus forts. Donc c'est l'idée, hein, en tout cas, qu'ils avaient.
Ouais.
Voilà. Et du coup, mes joueurs ont dit.
Vraiment tu trouves ça trop téléphoné, tu peux très bien dire. Tu peux très
bien moi j'ai adoré. En tant que maître du jeu, j'ai trouvé que c'était une scène extraordinaire. J'ai adoré la faire jouer.
Mais
les joueurs, après, m'ont dit ouais,
c'est très simple. Hein.
Pourquoi ils sont tous sacrifiés quand même? Ils auraient pu nous aider.
Il suffit juste de les présenter comme des éléments dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, tu as juste à dire que s'ils se sont sacrifiés, c'est parce qu'à tout moment, Miphos a des instruments en fait, qui lui permet éventuellement de les retourner contre les bugs. Et ça, les quadrillas en sont persuadés d'ailleurs. Ils sont persuadés d'être des machines de Miphos, tous les quadrillas de Cosmo comme les quadrillas de Rebirth. Et donc, les quadrillas de Rebirth, à ce moment-là, se sacrifient en se disant « Peut-être que Miphos a un moyen de nous soumettre et peut-être qu'un jour, nous serons obligés, contre notre volonté, d'affronter les bugs. Et ça, nous ne le voulons pas. Donc, nous préférons mourir. »
Est-ce que c'est la respiration?
Je ne sais pas.
j'essaye.
Non. La respiration, c'est vraiment autre chose. Mais c'est quelque chose qui fait... On en saura plus dans Sens Cosmo. On ne saura pas encore dans Sens Néant, ce qu'est la respiration. Dans Sens Cosmo, tout sera révélé. Ce que je peux dire, c'est que la respiration est considérée comme un crime contre l'humanité et contre la vie par Kranisten, et que la respiration est une des raisons tacites, cachées un peu dans Sens Renaissance, mais un petit peu, enfin, du retournement des Kadria contre Miphos Kadria. Et donc voilà, on apprendra dans Sens Cosmo pourquoi et comment tout ça, toute cette scène s'est jouée. Mais bon, voilà, je suis désolé si tes joueurs ont trouvé ça un petit peu téléphoné.
Non, mais ils l'ont accepté, hein, c'était pas le problème. Ils ont joué, etc. Ils se sont juste dit, ah, c'est... en fait, c'est plus ça. C'est dommage que Kranisten et tous les Kadria, ben, aient disparu parce qu'effectivement, on avait peut-être plein de questions à leur poser. On aurait aimé. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein.
Après, il y a, je sais plus qui est-ce qui a demandé au cours d'une question posée au podcast, est-ce que Kranisten peut survivre ? La réponse est
oui.
Oui, selon toi ? Ouais.
C'était oui à ce moment-là.
C'était oui la réponse. Hein. Ouais.
Donc, il y a quelqu'un qui disait qu'il voyait très bien tonton Kranisten, mais.
Ouais, mais moi maintenant que tu m'en as parlé, Aloïs, de cette manière-là, avec cette histoire de sacrifice et tout. Je suis en train de me dire que si ça se trouve, c'est une très mauvaise idée de les faire survivre.
Et puis c'est tellement plus intéressant d'avoir d'avoir Météor et notre Kadria de vie, juste eux deux. C'est tellement plus intéressant que de garder d'autres Kadria. Effectivement, oui. Je trouve que ça rajoute des problématiques puisque ce Kadria de vie tout frais, tout neuf, il a besoin d'un mentor aussi. Et puis il en reste plus qu'un. Je trouve ça intéressant aussi.
Moi j'aime bien. Ouais. Moi j'aime bien
les deux derniers quoi.
De toute façon voilà, j'aime bien laisser les joueurs avec de la responsabilité et de se dire bah voilà, on est les derniers, c'est sympa quoi. Enfin je trouve. Est-ce que tu avais d'autres choses à aborder?
Oui, j'ai encore d'autres points. j'ai écrit que bon, Kranisten est fédérateur, c'est le leader des Kadria avec Métatron, Graveur.
On en a parlé, effectivement, c'est lui qui les rassemble.
Il a un lien très fort avec Météor, bon, ça tout le monde le sait, mais pour moi, donc là c'est par rapport à Graveur.
Ouais, alors là il y a plein de choses.
Pour moi, il va beaucoup plus loin que Graveur, peut-être dans le théâtre, mais peut-être qu'il est vraiment. Qu'il ressent vraiment ce qu'il prétend ressentir. Enfin, il a la possibilité de choisir ses contraintes.
Ouais.
Il peut donc choisir de ressentir des sentiments, alors que Graveur est persuadé qu'il ne peut pas. Et donc il les crée. Donc il y a un paradoxe chez Graveur qui pour moi n'existe pas chez Kranisten.
D'accord.
Il est dans sa quête de l'humanité, il finit par ressentir des choses pour Solipsis, la dévotion, l'amour de la vie, etc.
C'est clair.
Il a vraiment quelque chose de fort pour Météor. Qui dépasse, on va éviter les allusions au crypto-gay de Senseiya, etc. Mais
mais peut-être, hein, peut-être, peut-être, sûrement même.
C'est pas de l'amour, mais c'est au moins une amitié,
très forte,
ou un amour platonique, limite.
Bah moi je pense que de toute façon la problématique du sexe chez les Kadria est très limitée parce que étant sans contrainte ils ne sont pas sexués, donc oui, moi je serais assez d'avis de dire que Météor et Kranisten s'aiment en fait.
C'est un choix du
surtout que Météor
c'est un maître de jeu.
Oui, tout à fait.
Voilà. Moi je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. Il y a des fois où voilà, pourquoi est-ce que Kranisten souhaite que Météor soit le seul à survivre?
Pour guider les bugs.
Pour guider les bugs.
Il a la mission.
Pour que Météor reste en vie.
Parce que c'est peut-être l'un des premiers qu'il a retrouvé. Et ensemble, ils ont rallié les Kadria. Enfin, ça peut être. Mais plein d'autres. vous préférez qu'ils soient ensemble.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais il y a d'autres raisons, en fait. Moi, je pensais que.
Il y en a plein.
Météor. Mais ça, c'est un podcast à lui tout seul, Météor.
Un podcast sur chaque Kadria.
On est en train de dévier là. On fera le podcast sur Météor plus tard. Il y a beaucoup de choses à dire sur Météor. Mais en tout cas, moi, je suis assez d'accord qu'on peut très bien dire que Météor et Kranisten sont amoureux. Pourquoi pas?
Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est fin. Contrairement à Graveur. Enfin,
ouais.
Graveur les ressent, mais il veut les étouffer en fait.
En fait, moi, je pense que Graveur.
Il se persuade qu'il veut les ressentir.
Ouais, c'est ça.
Mais il a un blocage.
Graveur, c'est un acteur inconscient. de l'acteur. On sait pas, il se perd dans sa propre.
C'est une mise en abîme tout seul en fait.
Ouais.
Il
s'oublie. Il s'oublie dans le théâtre. Il préfère croire que ses sentiments pour Métatron sont fins plutôt que de croire
à la douleur de ses sentiments
pour Métatron. Moi, je pense que c'est ça en fait. Mais après, il a raison en même temps.
Oui.
Graveur. Parce que, effectivement, les Kadria se sont imposés des contraintes. Et peut-être de ces contraintes-là sont apparus des sentiments. Mais voilà, ça, après tout, Graveur a raison. C'est ça qui est. ça qui est dingue, c'est qu'ils ont tous les deux raison.
Ils ont tous raison parce que chacun a sa voix, quoi. Mais
tout à fait. Mais c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'un sentiment? Qu'est-ce qu'un sentiment?
Une contrainte.
Est-ce que c'est pas une contrainte physique? Est-ce que le sentiment, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de la contrainte physique? Qu'est-ce que tu dis?
Je ne le dirai pas au micro. Pas de spoiler.
Donc voilà, c'est ça la question.
C'est une contrainte qui permet de se dépasser.
C'est compliqué de savoir jusqu'où. Ça, c'est la question de l'intelligence artificielle. C'est la question de l'intelligence artificielle, du sentiment artificiel.
Ça me fait penser à Mass Effect. Maintenant, cette machine a-t-elle une âme?
C'est
la question qui a été posée à la création des Gates, qui sont des êtres synthétiques.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire à partir de quand ces êtres qui se sont autodéterminés, qui a priori sont des êtres synthétiques, des ombres êtres, des ombres entités, à partir de quand est-ce qu'on peut dire, ou au contraire, à partir de quand est-ce qu'on peut ne pas dire qu'ils ont des sentiments? Après tout, est-ce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, est-ce que vous tous autour de cette table, vous pouvez pas dire que tous vos sentiments sont fins? C'est-à-dire que vous faites semblant. Ouais. C'est jusqu'où est-ce qu'on... C'est pas évident, en fait. Par exemple, l'autre jour avec Fabien, on a enregistré un podcast sur la sexualité et les jeux de rôle. Tu l'as écouté, ce podcast, Shadow?
J'avoue que non.
Je te le conseille, il est génial. Et Fabien,
il est récent, il y a
pas mal de temps maintenant.
Enfin, par rapport à quand on enregistre le podcast. Ouais.
Il commence à dater. Mais même parce qu'il avait été encore enregistré avant.
C'est vrai.
Et si tu veux, il fait une distinction très intéressante entre la nature d'un individu, c'est-à-dire son sexe. C'est-à-dire toi, par exemple, t'es un homme. Toi, Louis, c'est un homme. Et moi aussi, un homme.
Et ses sentiments.
Et son genre.
Son genre sentimental. Ouais.
Qui est en fait, en gros, la construction mentale que tu crées autour de ce que doit, dans la société, être un homme. Ainsi, tu peux avoir des hommes qui sont de genre masculin, c'est-à-dire des hommes qui acceptent leur statut d'homme sociologiquement, et tu peux avoir des hommes au sens naturel, avec les testicules et tout ce qui va avec, naturel, des hommes naturels, qui acceptent le genre féminin. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est toute la littérature sur les queers, par exemple, qui sont ces travestis qui se déguisent en femmes. Ce sont des hommes qui sont des hommes, donc naturellement des hommes, du point de vue biologique, ce sont des hommes, mais ils ont le genre féminin. Ils disent avoir le genre féminin. Et là, je vous pose la question aussi à vous par rapport à Kranisten. Jusqu'où est-ce que cet individu n'est pas un homme du point de vue biologique, mais jusqu'où le fait qu'il accepte d'endosser le rôle d'un être humain, de protéger la vie, de défendre des valeurs morales, etc., ne fait pas de lui un genre humain. C'est-à-dire qu'il fait partie du genre humain, mais ce n'est pas un homme. Tu vois ce que je veux dire? Et je vous pose la question aussi à vous-même. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que nos sentiments sont créés sociologiquement, sont engendrés sociologiquement, et jusqu'où est-ce qu'ils sont naturels, biologiques? C'est hyper complexe, en fait, comme question. C'est pas simple. Pas simple du tout. C'est pas évident.
Comme quoi, il y avait des choses à dire dans ce podcast. Hein.
Il y avait, oui. Mais c'est comme ouais, toujours.
Peut-être qu'on le diffusera, là.
Non, mais franchement, ce qui est intéressant ici, c'est pas tellement Kranisten.
Oui, c'est tout ce qui crée.
C'est le statut du quadria en général.
Oui, aussi.
Et le fait que toi, Loïs, tu dises, bah voilà, Kranisten, c'est le quadria de vie, en fait.
Pour moi, c'est même l'humanité. Enfin, c'est l'incarnation de l'humanité.
Ça. Bah oui. Non, mais c'est ça qui est. Tu voulais ajouter
après, j'ai les relations entre Kranisten et la résistance. Bon, ça.
Alors, les relations entre Kranisten et Graveur à ce niveau-là, justement. Est-ce que tu penses qu'elles sont bonnes? Est-ce que tu penses, par exemple, que Graveur est un allié de Kranisten ou un ennemi de Kranisten?
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Graveur, il a un statut à part.
C'est le fou, quoi.
Ouais.
C'est le fou.
La seule chose qu'il veuille, enfin, au fond de lui, à mon avis, la seule chose qu'il veuille, c'est récupérer Métatron. Finalement accepter les sentiments qu'il a pour elle, parce que voilà, il a sa mise en abîme, etc.
Est-ce que
Kranisten, il est contre les agissements de Graveur, c'est écrit dans la base,
ouais.
Mais pour moi, il a envie de l'aider.
En fait, pour moi, Graveur sert Kranisten à sa manière,
oui, d'une façon différente, mais voilà. Et Kranisten veut aider Graveur, mais Le seul moyen de l'aider, finalement, c'est de le terminer pour l'instant. Enfin,
bah oui, parce que, en fait, Graveur, moi, je pense fondamentalement à un refus de souffrir. Il refuse de souffrir, en fait. Oui. Alors que c'est bien précisé sur la fiche de Cranistein que, justement,
il faut accepter la douleur.
Il faut accepter la douleur. Et je pense qu'il y a un parallèle assez intéressant à lire, enfin, à faire quand on lit d'un côté la fiche de personnage de Graveur et de l'autre celle de Cranistein. Mais c'est qu'ils sont en opposition, en fait, sur ce point-là.
Oui. Moi, j'imagine bien.
Je souffre, donc je suis.
J'imagine bien Graveur et Cranistein. Ne plus avoir communiqué depuis Graveur est resté à la Nouvelle-York, comme s'il s'observait de loin. Cranistein qui venait de temps en temps regarder ce que faisait Graveur et Graveur qui parlait au ciel à Cranistein, mais en fait ils ne discutaient plus, n'échangeaient plus, ils s'observaient l'un l'autre et que depuis longtemps ils n'avaient plus.
Je sais plus si Graveur, il n'y a pas un mot pour Cranistein au moment où il meurt.
Oui, tout à fait.
Si, il dit Cranistein, Métatron, n'ai-je pas été merveilleux. Mais moi je pense qu'il a cette idée qu'il sert Cranistein quelque part. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que malgré tout, avec ces histoires de tornades, notre ami Graveur, il cherche à faire en sorte que les quadrillas deviennent réels.
Oui, oui.
Donc malgré tout, il continue un petit peu le rêve.
Bah, il continue le rêve qu'ils ont construit quand ils étaient.
Quand ils étaient tous les quatre. Non, mais vraiment, vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire finalement sur les.
Et puis, bah,
mais tout ça est caché en fait. Ça qui est intéressant, c'est que là, on dit ça pour les maîtres de jeu.
Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aux joueurs en fait. Mais un joueur, le Cranistein, il ne voit rien.
Mais
pour l'instant,
mais
imaginez par exemple que plus tard dans Sens Mort, ils seront confrontés toutes les demi-heures, ils seront confrontés à Météor. Et Météor, lui, sait tout ça. Parce que Météor, justement, c'est un fin connaisseur de l'âme humaine, enfin de l'âme humaine, de l'âme du genre humain. Et donc, lui, il sait tout ça. Donc, c'est intéressant quand même pour les MJ de savoir ce qui se passe un petit peu derrière les joueurs à ce moment-là dans Sens Connaissance, de façon à ce que dans Sens Mort, Météor puisse raconter justement.
Et c'est ça, c'est ce qu'on disait au début, c'est que la relation avec Cranistein,
elle est quasi nulle.
Elle se crée à sa mort.
Oui.
Et elle va grandissante après dans Sens Mort, etc. Les personnages vont se lier à lui alors qu'il n'est plus là.
Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a pensé à, enfin, qui s'est intéressé à Cranistein. Je sais pas.
Non.
Pour l'instant, les joueurs ne s'y attachent pas.
Beaucoup de choses, mais
non, mais en fait, maintenant que j'y pense, celui qui s'est le plus intéressé à Cranistein dans ma table de, comment il s'appelle, Thomas Fournier, le joueur de Marius, qui s'est énormément intéressé à Cranistein parce qu'en fait, son personnage est une copie du personnage de Cranistein. Donc, à mon avis, c'est le podcasteur manquant, là, finalement.
Ouais, bah, tu le voulais absolument pour ce podcast.
Pour tous les podcasts sur les quadrillas, j'aurais voulu Thomas. Le problème, c'est qu'on a eu l'occasion de l'entendre au cours du podcast Solipsis versus Miphos, c'est que Tom et le micro, c'est une histoire d'inimitié. C'est terrible.
Et puis, bah, la dernière chose qui me restait, la dernière note, celle que je comprends pas, c'est la relation à Sens et à l'aiguilleur et au sentiment sous le masque, en fait.
Alors ça.
Et par rapport à l'ultime sentiment dans le sacrifice.
Selon moi, Cranistein vis-à-vis de Sens n'a aucune relation, en fait.
Oui, mais
c'est vraiment le méchant de Sens Renaissance à ce niveau-là. Il est pas du tout au courant de l'énorme complot qui se joue autour des joueurs à ce moment-là. Cranistein, c'est un personnage qui est dans l'histoire entre la réalité, l'ombre monde, Miphos Quadria et Solipsis. C'est-à-dire que c'est le Renaissance, quoi. Le personnage de Sens Renaissance. Et à ce niveau-là, c'est un peu comme Gladius, si tu veux.
Oui.
Parler de Sens avec Gladius, c'est totalement hors propos. Enfin, c'est totalement improbable.
Mais là, c'était une espèce de ressemblance, je crois, que j'avais pensé.
On a encore les pieds sur terre dans Sens Renaissance.
Oui.
Moi, les miens restent sur ma chaise pour l'instant. Mais...
Alors,
Le dernier point, celui que j'ai sauté malencontreusement, c'est que pour moi, le sacrifice de Cranistein et des Quadria. Il se sacrifie à la Nouvelle-York, etc. C'est pas un doute. Ça le rapproche de l'ultime sentiment, en fait.
Donc
parce que pour moi, dans l'ultime sentiment, il y a l'abnégation.
Ça, c'est plutôt par rapport justement à ta voix du samouraï, mon cher ami.
Et au bouddhisme, ouais. Probablement. Ouais. Mais, pour moi, il y a une espèce
moi,
de.
Moi, j'y crois
de...
pas à ça. Hein. Par exemple, personnellement. Cranistein, je lui chie dans la bouche, quoi. Hein, je trouve ça horrible. On ne s'accomplit pas en se détruisant.
On est d'accord.
Non, mais c'est ce qu'il fait, hein. Il se suicide, hein. Bravo la représentation de la vie, hein.
Mais
terrible.
C'est la conclusion du podcast sur Cranistein.
Je lui chie dans la gueule, je lui dévisse le cou. Non, c'est pas ça, je lui dévisse la gueule et je lui chie dans le cou.
Mais voilà, c'est que l'ultime sentiment, au stade où on en est dans le jeu, on sait pas encore ce que c'est.
Non.
Enfin, On a des idées, mais.
Mais bon, voilà, en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que.
C'est pas comme ça que tu.
Kranisten n'est pas une vision idéalisée de. Comment dire? Non, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, une vision du personnage idéal, selon moi. Oui, moi, oui. Tu vois, d'ailleurs, quand tu me dis un podcast sur Kranisten, je te regarde avec des yeux comme ça. je veux faire avec Kranisten, il n'y a rien à faire, c'est le méchant, puis c'est tout. Il crève à la fin, et puis on est content.
Et non. Et là, c'est bien la preuve.
Non, ouais, c'est bien la preuve qu'il est. Non, mais c'est vrai que. Bon,
donc on va pouvoir faire un podcast sur Michel Cetra.
De qui que,
voilà.
Ah mais lui, alors lui par contre, il représente beaucoup plus ma vision idéale du personnage par contre.
C'est qui Michel Cetra?
Michel Cetra, c'est le financier de la résistance. Grand financier, extrêmement riche qui décide de se joindre à la résistance pour s'amuser en quelque sorte parce que ça voilà.
Merci. Non mais il est lui, il est beaucoup plus positif, il a une vision de la vie et beaucoup plus positive,
plus économique.
Il a toujours une petite pièce dans les poches pour les bugs quoi.
Et ludique.
C'est pas le côté économique de Michel Cetra qui m'intéresse. C'est sa vision de la vie, quoi. C'est le côté toujours positif. Le verre est toujours à moitié plein, jamais à moitié vide.
Ou il est deux fois trop grand.
Oui, deux fois trop grand. Donc voilà. Non, mais c'est clair que c'est intéressant de partir d'un personnage comme celui de Kranisten pour en arriver à toutes ses conclusions. Moi, personnellement, en tant qu'auteur, je les avais pas forcément vus dans Kranisten, mais je les avais parfaitement vus dans tous les quadrillas. Oui, c'est problématique. Et comme Kranisten devait être le premier des quadrillas, c'est normal qu'il en hérite inconsciemment, on va dire, dans le bouquin. Mais c'est marrant que tu les aies vus.
C'est peut-être Kranisten qui l'a donné.
Est-ce que t'as un quadrilla à ta table, Aloïs? Un quadrilla parmi tes joueurs? Ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai tout ce que tu me racontes.
C'est obligatoire dans la base.
Oui. Mais tout ce que tu me racontes sur Mario. Ouais, mais après, tu peux avoir des joueurs qui acceptent pas de le jouer. C'est vrai que ça fait chier.
Bon, il fait plus des conneries avec son statut. Il passe son temps dans le bon monde à visiter, mais.
Parce qu'en fait, tout ce que tu me dis par rapport à Kranisten, si tu veux, moi, je l'avais avec Marius, en fait.
Oui.
Marius et plus tard Protecteur.
Ça m'a apparu dans le livre à relire, etc. Ouais. Ouais, Kranisten, pour moi, est un personnage central.
Ouais, c'est intéressant. Il est personnage central, mais pas accessible aux joueurs. C'est intéressant. Et les personnages centrales, en fait, il est charnière entre sens renaissance, sens mort. C'est ça surtout.
C'est l'histoire commence avec Graveur, mais elle tourne autour de Kranisten.
En tout cas,
il a un rapport avec tous les grands événements qui se passent dans Renaissance.
En tout cas, c'est à chaque maître de jeu de se faire sa vision de ce personnage maintenant. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Kranisten. On a dit quand même pas mal de choses, et en général sur les quadrillas. Merci à Loïs d'être venu avec ce sujet de podcast.
Merci.
Surprenant.
Merci d'avoir accepté.
On ne sait pas qui serait aussi intéressant que ça.
Et puis, qui serait aussi long aussi.
Il nous reste à vous laisser. À bientôt tout le monde. Jouez bien.
Râlez moins.
Salut. Au revoir.